Le grand entretien avec Véronique Fayet. Bonjour Véronique Fayet.
Bonjour.
Véronique Fayet, présidente du Secours catholique. Cette semaine, la Banque mondiale a déclaré que la crise sanitaire pourrait avoir entraîné 100 millions de personnes dans l'extrême pauvreté dans le monde. Est-ce qu'on a, Véronique Fayet, une idée d'un chiffre à l'échelle de la France ?
Alors pas encore, parce qu'effectivement il y a cette espèce de parenthèse de l'été qui d'une certaine manière cache les choses, mais effectivement nous on a déjà vu au Secours catholique beaucoup de gens nouveaux arriver, des jeunes professionnels, des étudiants qui étaient privés du stage rémunéré qu'ils attendaient, des jobs d'été, beaucoup d'adultes aussi bien sûr, dans le secteur de la restauration, du tourisme, des saisonniers, enfin il y a beaucoup de secteurs qui sont touchés, des gens qui travaillaient, qui s'en sortait bien. J'ai en mémoire une jeune femme avec un enfant qui avait entre 1500 et 1700 euros par mois grâce à son salaire, avec des primes, des heures sup. Les primes, les heures supplémentaires sont tombées en raison de la crise. Elle s'est retrouvée à 800, 900 euros en chômage partiel. Bon, voilà, donc elle s'en sortait plus. Elle vient au Secours catholique et elle ne sait pas si elle va reprendre à temps complet avec les primes, les heures supplémentaires qu'elle avait auparavant. Voilà, donc il y a beaucoup de gens en précarité. On le voit aussi dans les distributions alimentaire, ça c'est un signal, un clignotant rouge, si je puis dire, cet été. On voit que les distributions d'août solidaire, là, sur la région parisienne, il y a 30 à 40% de personnes supplémentaires. Nous, sur Toulouse, le Secours catholique et les Restos du Cœur distribuent 700 repas tous les soirs. Et il y a beaucoup de femmes, il y a des enfants. Donc voilà, il y a des signaux, il y a de très mauvais signaux, mais on ne sait pas encore le nombre de personnes, ça se compte certainement en milliers, de personnes qui étaient dans la précarité, qui s'en sortaient à peu près et qui tout d'un coup basculent dans la pauvreté. Et voilà, il faut se préparer à une rentrée difficile pour des milliers de personnes, c'est sûr.
Et l'accélération, Véronique Fayet, elle a eu lieu au moment du déconfinement ?
Non, ça a été toute la période du confinement qui a été difficile aussi, des gens qui ont perdu leur travail, beaucoup de gens qui tout d'un coup se sont retrouvés sans ressources, sans droit au chômage ou des droits aux minima sociaux qui n'étaient pas ouverts. Et ça a été difficile de les ouvrir parce que les travailleurs sociaux n'étaient pas toujours joignables. Voilà, donc dès le confinement, il y a eu des gens qui étaient en très très grande difficulté. Et la meilleure preuve, c'est que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, etc. Nous, Secours catholique, avec nos modestes moyens, mais grâce à la générosité des donateurs, on a distribué 5 millions d'euros de chèques services aux familles qu'on connaissait. Donc il y a eu des besoins immenses dès le début du confinement, avec toute cette économie un peu invisible, des gens qui sont dans la précarité, qui ont les minima sociaux et qui ont à côté des petits boulots au noir, des petits compléments. Et quand tout ça s'arrête, eh bien, les gens passent de la précarité à la pauvreté.
Vous diriez qu'on est dans le signal d'urgence, on commence à rentrer dans l'urgence ?
Ah oui, bien sûr. Oui, je pense que, voilà, on n'a pas encore de chiffres précis, mais on sait que ce sont des milliers de personnes, dont des femmes et beaucoup d'enfants, qui vont être dans des situations dramatiques. Donc on attend des mesures fortes. Par exemple, on attend qu'il y ait une revalorisation des minima sociaux, des assurances chômage, etc., de manière à ce que les gens se sentent vraiment protégés. Et ça peut se faire dès le projet de loi de finances 2021. Ça serait une mesure importante, structurelle, forte, et un signal fort du gouvernement de répondre à cette demande des associations de revaloriser tous les tout petits revenus, tous les minima sociaux.
Et en même temps, en parlant de signal fort, le gouvernement n'a pas créé de secrétariat à la pauvreté cette année.
Oui, alors ça c'est toujours un sujet de discussion. Un secrétaire d'État, ça a une portée symbolique. Hein. Là, on peut ironiser sur le fait qu'il y a un secrétaire d'État à la biodiversité, ou c'est une femme d'ailleurs, il n'y en a pas à la pauvreté, qui concerne 10 millions de personnes, dont 3 millions d'enfants. Bon, par ailleurs, il y a quand même un secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, ça c'est un signal positif. Mais au-delà du symbole du secrétaire d'État, nous ce qu'on attend, c'est un plan de relance fort et efficace, alors, et qui va répondre à nos attentes sur différents secteurs, parce que la pauvreté, c'est pas seulement un secrétariat d'État, mais c'est la question du logement, c'est la question de la rénovation énergétique, c'est la question de l'emploi.
Précisément, Véronique Fayet, je vous coupe, mais les associations de solidarité doivent être reçues d'ici la fin du mois, en l'occurrence, donc d'ici la fin de la semaine prochaine, par la ministre déléguée au logement, Emmanuelle Wargon. Vous avez une date d'entrevue ?
Oui, je crois que c'est le 27, voilà. Donc bien sûr, on sera au rendez-vous pour parler logement, c'est très important. Logement, hébergement, rénovation des passoires énergétiques. On a là un plan dont le gouvernement devrait se saisir parce que c'est vraiment quelque chose qui est bon pour la planète. On diminue les gaz à effet de serre. C'est bon pour l'emploi, ça crée des milliers d'emplois dans le bâtiment et en proximité. Et c'est surtout bon pour les familles qui n'arrivent plus à payer leur facture d'énergie, qui retrouvent un bien-être, un confort de vie. Donc vraiment, voilà, il ne faut pas rater ce rendez-vous de la rénovation énergétique. Et pour l'instant, ce que l'on entend n'est pas très encourageant.
C'est-à-dire ?
Eh bien, par exemple, dans l'annonce de son plan de gouvernement, M. Castex a annoncé qu'il y avait 5 milliards d'euros pour la rénovation énergétique, mais que ce qui serait ciblé en premier lieu, ce sont les écoles, les EHPAD, etc. Donc c'est très bien, mais qu'est-ce qui restera pour le logement ? Et on a besoin de rénover, ça a été calculé de nombreuses fois par les associations, 500 000 logements par an pendant 20 ans pour arriver à bout de ce fléau des passoires thermiques, passoires énergétiques qui sont un fléau pour la planète, qui sont un fléau social, qui sont un fléau économique, voilà. Et pour ça, il faudrait autour de 5 milliards par an rien que pour les logements, voilà. Alors ce qui est annoncé, c'est pour les écoles, les EHPAD, voilà. Donc c'est insuffisant.
Vous vous sentez oublié, en tout cas dans certaines catégories de vos combats ?
Alors, on se bat pour ne pas être oublié. On se bat. On a écrit à plusieurs reprises, soit le Secours catholique seul, soit collectivement, puisqu'on travaille beaucoup en collectif d'associations, pour justement faire valoir les demandes importantes qui nous semblent, les réformes structurelles qui nous semblent importantes de prévoir. Il faut que ce plan de relance annoncé, il soit une dimension économique forte, bien évidemment, mais il faut lier l'économique, le social et l'écologique, parce que les trois fonctionnent ensemble, c'est pas l'un après l'autre, c'est pas l'un contre l'autre, et investir dans les questions sociales, c'est vraiment un investissement d'avenir au même titre qu'investir dans l'économie.
Vous trouvez que l'État, justement, n'investit pas assez dans ce que vous dites, le côté social ?
Oui, je pense qu'il y a une vision faussée. On pense que, par exemple, augmenter les minima sociaux, c'est une dépense, j'allais dire, à perte. Aujourd'hui, il faut savoir que le RSA, donc pour une personne seule, c'est autour de 500 euros. Donc, ce n'est pas un revenu digne. Et tous les gens qui sont au RSA, qui ont perdu leur petit job à côté, leur petit boulot au noir, leurs petites heures de travail, ils ont basculé dans la pauvreté. Donc ce n'est pas un revenu digne, c'est insuffisant. Investir en augmentant le RSA, ça permettrait aux gens de sortir la tête de l'eau et d'être plus disponibles pour chercher un emploi, pour faire un projet et pour se redresser et pour revenir dans le monde d'économie, parce que tous ces gens-là n'ont qu'un seul rêve et qu'un seul désir, c'est de retrouver du travail. Donc pour nous, augmenter les minima sociaux, permettre aux gens d'être protégés, de ne plus avoir peur du lendemain, c'est un investissement qui permet de revenir dans le monde actif. Voilà, à cet égard, qu'il y ait un secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et un effort fait dans ce sens, c'est important. Alors, mais le social n'est pas un coût, c'est un investissement, parce que derrière, il y a des hommes, des femmes, des compétences, il y a des enfants qui sont en danger. Si les enfants ne réussissent pas à l'école, et on a vu que le confinement avait mis beaucoup, beaucoup d'enfants en grande difficulté, eh bien, c'est tout leur avenir qui est compromis. Donc, investir dans une bonne scolarité, c'est un investissement intelligent pour l'avenir, un investissement durable.
En 2018, Véronique Fayet, Emmanuel Macron avait annoncé un plan pour lutter contre la pauvreté, 8,5 milliards d'euros sur 4 ans. Le revenu universel d'activité devait arriver. On en est où ?
Alors, tout cela est un peu en panne. Alors, dans le plan était bien parti, et puis après, il n'y a plus la volonté politique de le porter. Agnès Buzyn est partie sur ses entrefaites. Voilà, il y avait beaucoup de choses dans le plan qui dépendaient des collectivités locales. Par exemple, le fait d'instaurer des cantines à 1 euro pour tous les enfants. Ça, c'est une bonne mesure qui pourrait aider des familles pauvres. Mais c'est très long à se mettre en place parce qu'il faut que chaque municipalité prenne la décision, etc. Voilà. Donc, oui, ce plan est un peu en panne. Le RUA, revenu universel, qui n'avait d'universel que le nom, d'ailleurs, on a beaucoup participé avec beaucoup de bonne volonté aux concertations. Mais je pense que tout cela va être sans doute remis en cause par la crise et qu'il va falloir dialoguer autrement et inventer autre chose. Et voilà, avoir des mesures qui sont plus dans un premier temps à court terme,
ouais.
De revalorisation de certains minima sociaux, de remise à l'emploi aussi. On est très mobilisé, l'ensemble des associations, sur une expérimentation que France Inter connaît bien, qui est les territoires zéro chômeur de longue durée. Voilà, on voit que c'est très positif, ça permet à des gens très loin de l'emploi de retrouver une dignité, de retrouver un travail. Voilà, il faut absolument qu'une loi passe permettant d'étendre. On est aujourd'hui à 10 territoires, c'est vraiment rien du tout. Il faut pouvoir passer à 50, 60 territoires, 100 dans un an ou deux. Et les territoires sont prêts. On voit tous ces territoires, ils sont prêts. Les élus travaillent, les associations travaillent. Donc voilà, il y a vraiment des mesures à prendre qui seraient des mesures qui seraient bonnes pour l'emploi et notamment l'emploi des personnes les plus fragiles.
Véronique Fayet, à vous entendre, on a l'impression que ça tarde. Vous, votre crainte, c'est quoi ? C'est qu'on passe d'une crise sanitaire à une crise humanitaire ?
Oui, bien sûr, parce que s'il n'y a pas de mesures fortes qui sont prises, effectivement, on n'aura plus 9 millions de pauvres ou 10 millions de pauvres, mais on peut passer à 12-15. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs après la grande crise financière de 2008. Pour la France, rien que pour la France, on avait eu 1 million de personnes pauvres en plus.
Oui, donc là,
on peut avoir, oui, s'il n'y a pas des mesures fortes qui sont prises de protection, on peut avoir 1 million de personnes, on peut passer à 10 ou 11 millions de personnes qui seraient sous le seuil de pauvreté. Donc, alors, l'indicateur financier n'est pas le seul indicateur, mais c'est la question des enfants qui n'apprennent pas bien à l'école, la question des gens qui se sentent inutiles parce qu'ils sont privés d'emploi. Voilà. Nous, on attend que ce plan de relance soit vraiment un plan global et qu'il envisage les choses de manière très globale et en montrant bien que tout est lié et que pour vivre dignement, il faut un logement digne, il faut un emploi digne, il faut un revenu digne.
Et il faut des masques aussi gratuits pour les gens ?
Oui, alors si possible, oui. Alors, mais je dirais le masque, c'est presque anecdotique parce que maintenant on en trouve, les municipalités en ont beaucoup distribué. Le problème, c'est plutôt le prix de l'électricité, le prix de l'alimentation et des revenus en face qui sont pas à la hauteur. Donc des gens qui doivent choisir entre se chauffer ou s'alimenter, entre s'alimenter et se soigner, évidemment arbitrer sur les loisirs, tout ça, c'est hors de question pour certaines familles. Donc voilà, arbitrer sans cesse entre différentes privations, c'est vraiment des moments très très difficiles à vivre pour toutes ces familles qui sont en difficulté.
Véronique Fayet, je voudrais qu'on revienne sur le dossier aussi des migrants. Vous faites partie des associations qui ont saisi la Défenseure des droits et des rapporteurs de l'ONU la semaine dernière pour alerter sur les conditions de vie des migrants. Vous parlez d'exactions récurrentes depuis la fin de l'urgence sanitaire et l'arrivée de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur.
Oui, alors effectivement, malheureusement, on constate, c'est pas tout à fait nouveau, mais là, il y a quand même une coïncidence qui fait que, par exemple, le Conseil d'État au mois de juillet a confirmé que la France viole le droit d'asile à la frontière italienne. C'est le Conseil d'État qui parle, donc il n'y a pas de quoi être fier. Monsieur Darmanin, donc nouvellement nommé ministre, a effectivement été à Calais pour rencontrer la police, la préfecture, la mairie, quelques associations qui gèrent le dispositif d'État, mais il n'a pas souhaité rencontrer les exilés et les associations qui les accompagnent depuis des années, comme le Secours catholique, ou Médecins du Monde, ou Médecins sans frontières, etc. Donc il a entendu ce qu'il voulait entendre, mais on n'est pas dans le dialogue. Et donc on est obligé de saisir le défenseur de droit pour dire qu'il y a des conditions de vie qui sont innommables. Il y a eu notamment 48 heures avant l'arrivée du ministre, comme ça se passe souvent, des 800 personnes qui ont été évacuées, des expulsions violentes, avec confiscation des effets personnels, des gens qui n'ont plus accès à l'eau ou à l'alimentation, aux douches, parce qu'il y a une présence policière très forte. Voilà, donc ça c'est pas acceptable. Alors, et nous, ce qu'on demande surtout, c'est on prétend pas avoir la solution sur ce problème extrêmement difficile, mais ce qu'on demande, c'est un dialogue au plus haut niveau de l'État, c'est d'être entendu. Et là, du côté du ministère de l'Intérieur, ça fait quand même bien longtemps qu'on n'a pas été entendu. Avec le précédent ministre, ce n'était pas mieux. On demande un dialogue au plus haut niveau de l'État pour essayer de construire ensemble des solutions qui ne soient pas que répressives, parce qu'on sait que c'est inutile. Les 800 personnes évacuées au mois de juillet, 500 étaient revenus sur place trois jours après. Hein, donc on sait que c'est inutile. On a demandé aussi un dialogue au président de la République sur les personnes, toutes les personnes étrangères qui n'ont pas le droit au travail, mais qui travaillent, qui travaillaient, disons, avant la crise, dont les enfants sont très bien scolarisés, voilà, qui ne sont plus expulsables. Ces personnes qui travaillaient et qui ont perdu leur emploi n'ont pas le droit aux allocations. Voilà. Donc, ouais, il faut vraiment qu'on ait un dialogue au plus haut niveau de l'État sur la question des migrants, des exilés et de ceux qui sont sur notre territoire pour trouver ensemble des solutions intelligentes.
Véronique Fayet, migrants, pauvreté, inégalité. On a l'impression que les associations de solidarité n'ont jamais été sur autant de fronts. Très rapidement, ça donne quel regard sur notre société?
Un regard effectivement qui est pas très encourageant, effectivement, et ça a été aussi un des effets de la crise. Il y a toute une pauvreté qui est invisible, qu'on ne voit pas, parce que les gens serrent les dents, les gens sont dans une précarité, ils arrivent juste à joindre les deux bouts. S'il y a un petit incident, ils basculent dans la pauvreté. Ceux qui sont étrangers, qui n'ont pas le droit de travailler, bah, ils travaillent quand même au noir, donc on ne les voit pas, ils ne demandent rien. Voilà. Et puis, tout d'un coup, quand il y a non plus un accident individuel, mais un accident collectif, un énorme crash collectif, eh bien, toutes ces précarités deviennent des grandes pauvretés qui vont, exploser au grand jour. Et si on ne prend pas en compte toutes ces personnes qui sont là et qui ont des talents, qui ont des désirs, on ampute la société d'une partie de ses richesses et on se prépare des lendemains très douloureux et peut-être violents.
Merci Véronique Fayet d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Merci.